Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. T'as de longs yeux, tu sais. Ce compliment s'adresse à tous les myopes. J'ai peu de chance de viser à côté, ils sont de plus en plus nombreux. Ce défaut de la vue lié à un allongement excessif de l'œil concernerait aujourd'hui 40% de la population contre 20% en 1970. La myopie voit donc double, mais elle voit aussi loin puisqu'elle frappe de plus en plus tôt. Et si rien ne vient corriger sa course, il y aura 5 milliards de myopes sur Terre en 2050, sans doute pour le plus grand bonheur des opticiens. Heureusement, les traitements pour parer ce défaut de la vue ont fait des progrès. Reste à en faire bénéficier le grand public, à commencer par les premiers intéressés, les enfants. La seule à ne pas voir flou dans cette pièce s'appelle Sylvie Riumio, et comme de coutume, l'experte santé de Sciences et Avenir va apporter des réponses nettes et précises à toutes mes questions. Bonjour Sylvie.
Bonjour Romain.
Tu parles de la myopie comme d'une épidémie, et tu n'y vas pas avec le dos du scalpel, puisque le mot de pandémie est lâché. Tout à l'heure, je donnais ce chiffre, 40% de la population mondiale serait myope aujourd'hui contre 20% en 1970. Moi inclus, nous serons 5 milliards à voir flou de loin en 2050. Ça fait quand même beaucoup. Le pire dans tout ça, c'est que cette épidémie, et c'est toi qui l'écris, elle était annoncée.
En effet, il y a tout juste 10 ans, en 2012, dans la revue Le Lancet, un Australien, un ophtalmo très internationalement reconnu, annoncé l'épidémie. Et la revue Nature a repris 3 ans après en titrant le myopie boom. Et depuis, toutes les études ont confirmé. Et effectivement, les chiffres sont là. Les premières observations ont été faites d'abord en Asie, mais ça concerne aussi l'Europe.
On est un peu obligé de revenir à ça. C'est vrai que je voulais commencer avec les chiffres parce que c'est ce qui est le plus marquant aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste nous dire, nous qui sommes tous les deux équipés de lunettes, c'est quoi la myopie concrètement ?
Alors, la myopie, c'est la maladie de l'œil long. C'est en lien avec un défaut de croissance de l'œil. L'œil pousse en fait trop vite. Et résultat, l'image, au lieu de se former sur la rétine, pour être honnête, elle se forme en avant. D'où une vision floue de loin. Par contre, la vision de près, elle, n'est pas affectée.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi est lié cet allongement excessif, cet accroissement excessif de l'œil ?
Eh bien, non, mal. Si autrement, tout serait simple. Il y a des facteurs génétiques, c'est clair, puisqu'il y a des facteurs de prédisposition, il y a des familles de myopes, donc évidemment, il y a un poids génétique. Mais l'augmentation aussi rapide des chiffres que tu as donné tout à l'heure ne peut pas être expliquée par des facteurs génétiques seuls. Donc, il y a des facteurs environnementaux qu'il faut prendre en considération. Et là, on en revient au mode de vie.
Alors, je crois qu'on tient un des responsables devant nous. Alors, je dis devant nous parce que je m'appuie sur un écran d'ordinateur pour lire le conducteur de l'émission. Les écrans, ça pourrait être l'une des causes, sinon la cause, de l'explosion de la myopie dans le monde.
Tout à fait, oui, parce que l'écran, en fait, que ce soit le téléphone, l'iPad, l'ordi et autres, les tablettes, on y passe de plus en plus de temps et c'est une vision, là, qui est extrêmement sollicitée et uniquement de près, sans accommodation, sans pause, et c'est souvent une activité, en plus, qu'on fait plus en intérieur qu'en extérieur. Or, on sait également que la lumière extérieure, la lumière naturelle, elle stimule la sécrétion de dopamine, qui est un neuromédiateur qui ralentit l'élongation de l'œil, d'où la recommandation de passer plus de temps en extérieur.
Et le fait de ne pas être exposé finalement à des horizons, à ne pas utiliser finalement sa vue de loin, ça joue quoi ?
C'est le fait de faire varier effectivement la distance à laquelle l'œil regarde. Quand on lit, quand on est sur écran, on ne regarde que de près. Quand on est dehors, forcément, on regarde plus loin, on regarde l'horizon, le regard se pose sur d'autres éléments. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils pour tout le monde de faire des pauses dans le quotidien.
On gardera les conseils de beaucoup. Oui, ça implique du coup que vous écoutiez cet épisode en entier. On est désolé. Et qu'en est-il du coup du confinement ? Enfin, on a quand même passé pas mal de temps enfermés et le nez devant l'ordinateur, c'est peut-être le cas notamment des enfants. Est-ce qu'on sait déjà si le confinement va avoir un impact de ce côté-là ?
De premières études vont dans ce sens. Il est encore un peu tôt pour avoir des analyses solides, vérifiées partout, mais effectivement, les premiers indicateurs vont dans ce sens.
Alors, une pensée toute particulière pour nos amis de Shanghai et d'autres villes où le confinement se poursuit. C'est un confinement très très strict. Alors, je fais ce parallèle puisque l'Asie est particulièrement frappée par ce fléau flou qu'est la myopie. 90% des jeunes Taïwanais sont myopes. C'est dingue.
Les chiffres sont hallucinants, effectivement. Le système éducatif, en fait, asiatique est particulièrement strict et impose des temps d'apprentissage, d'école, de lecture, donc forcément importants. Et donc, pour les enfants, ça a des conséquences.
Les yeux vissés sur des livres.
Sur des livres. Voilà.
Contrairement à la France, alors j'imagine qu'ils sont conscients de tout ça. Enfin, quand on a 9 personnes sur 10 qui sont myopes et qu'on dirige l'État, on doit le savoir et on doit, j'imagine, entreprendre des actions correctrices ou des mesures en quelque sorte anti-myopie. Qu'est-ce qui est fait dans les pays d'Asie ou Taïwan, par exemple ?
Juste une précision, parce qu'effectivement, la plupart du temps, la myopie est légère, modérée, mais dans 5 à 10%, elle est grave. Et là, c'est une vraie myopie maladie qui a des conséquences à l'âge adulte, avec des complications ophtalmo qui sont du type décollement de rétine, glaucome, cataracte, précoce. D'où l'importance de suivre ces patients et surtout de les dépister. Mmh. Donc c'est en fait ça le problème, c'est de se retrouver...
L'enjeu, il est là.
L'enjeu,
ouais.
Il est dans l'incapacité des systèmes de santé à faire face à autant de cas. Donc, il faut faire quelque chose. Et effectivement, en Asie, puisque c'est chez eux que les premières observations ont été faites, ils se sont très tôt mobilisés pour contrer. Et donc, ça s'est traduit en milieu scolaire, plus de fenêtres, plus de temps scolaire passé à l'extérieur, les cours ayant lieu dehors, et également des dispositifs sur des tables qui empêchent en fait une distance trop proche entre l'œil et soit l'ordinateur, soit le livre. Les tables, les écoliers se retrouvent équipés de barres qui sont figées dans la table.
Je suis content que tu parles de cette photo parce que dans ton article, elle est assez parlante. Hein. On a des enfants qui sont penchés sur leur livre d'écolier, mais ils sont en quelque sorte retenus à, je sais pas, 50 cm du livre pour ne pas, en gros, solliciter trop la vue de près.
Et en plus, ça marche puisque les premiers résultats, parce que ça fait déjà près de 10 ans que ces mesures ont été prises en Asie, et il y a une réduction d'environ 10% de la prévalence qui se réduit.
En France, par contre,
c'est... Eh ben, rien. Les spécialistes, effectivement, attendent un plan myopie, le revendiquent, mais c'est pas vraiment au programme. Et c'est l'un des travaux en cours de la Fondation de Rothschild qui voudrait se doter en 2023 d'un institut de recherche sur la myopie pathologique pour justement faire des études en France.
Ça va prendre du temps.
Et ça va prendre du temps.
Je veux bien qu'on revienne sur un point, c'est l'apparition de la myopie. C'est vers quel âge ? C'est quoi ? C'est vers 3 ans ?
En général, c'est effectivement dans l'enfance. C'est l'enfant qui est fatigué, qui plisse des yeux. Alors, à l'école, ce qui dit voir mal le tableau, qui se met devant, naturellement, pour le voir ou derrière, si c'est
ou
plus confortable.
Ou qui passe son temps à demander...
Avec parfois des retentissements scolaires, mais là, il est déjà un peu tard. D'où l'importance d'un dépistage précoce, le plus tôt possible, savoir si effectivement, surtout si on est d'une famille de myopes, évidemment, mais pas uniquement, justement, aussi.
Ça implique, c'est ça, des mesures correctrices en quelque sorte de la myopie très tôt également, c'est-à-dire à partir de 3-5 ans. Quoi.
Effectivement, si le trouble est identifié, il doit être corrigé.
On peut combattre la myopie chez l'enfant, en freiner, voire quasiment en annuler la progression, si j'ai bien lu ton article. Quelles pistes sont explorées aujourd'hui dans les pays asiatiques et lesquelles pourraient être bientôt, alors là c'est très hypothétique, accessibles aux parents français ?
Elles le sont en France aussi. Les trois stratégies aujourd'hui, c'est des verres freinateurs, qui sont donc différents des simples verres correcteurs dont on dispose aujourd'hui. Mais ces verres freinateurs, ils sont déjà vendus depuis environ 2 ans en France. Il y a à la fois un constructeur français,
un constructeur japonais.
Donc ça, c'est la première stratégie. La seconde, ce sont des gouttes dans l'œil. On y reviendra si tu veux. Et la troisième, ce sont des lentilles à porter la nuit pour éviter de porter des lunettes le jour.
Ça, je suis d'accord, c'est le plus étonnant, mais on le garde de côté pour l'instant. Je veux bien qu'on revienne quand même sur cette question donc des verres freinateurs ou défocalisants, c'est l'autre terme, c'est
ça ? Alors voilà, c'est leur autre dénomination. Et donc les constructeurs, il y en a deux. C'est très sophistiqué sur le plan optique. Ça va être un petit peu difficile de l'expliquer clairement. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Mais c'est basé sur le fait que la rétine périphérique des myopes, en tout cas, c'est le concept de
de départ des verriers, que cette rétine périphérique des myopes perçoit des images floues et que ce sont ces déformations que les verres cherchent à corriger. Donc, ils ont mis au point des micro-lentilles dans l'un des verres, l'autre, ce sont des verres défocalisants en périphérie, tout ça visant à reconstituer une image qui soit moins floue et donc moins aberrante sur le plan optique. Les résultats, aujourd'hui, font état, selon les constructeurs, d'une frénation d'environ moins 60% si ces lunettes sont portées pendant 3 ans. Maintenant, ces essais n'ont été faits que chez des enfants asiatiques. Mmh. D'où l'idée, il y a déjà des spécialistes en France qui s'y intéressent évidemment, pour obtenir des cohortes d'enfants vus ici en consultation, parce qu'on ne peut pas complètement éliminer un biais génétique.
Exactement, sachant qu'en plus, il y a plein de mesures qui sont prises par ailleurs dans les établissements scolaires. Donc, on ne peut pas être sûr que les lunettes...
Voilà, il faudrait le faire ici avec nos enfants.
Du coup, ces lunettes, en gros, elles freinent finalement la croissance de l'œil.
Voilà. C'est ça qui est observé.
On les gardait de côté, plus original que les lunettes de jour, les lentilles de nuit. Alors j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai découvert dans ton article un appareil correcteur de nuit, un peu à l'image finalement de l'appareil dentaire qu'on peut nous coller pendant le sommeil. Est-ce que c'est la même chose ?
Complètement, c'est totalement mécanique, ça agit sur la cornée la nuit. Alors c'est assez peu pratiqué en France, c'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Ça a un coût, ça suppose aussi... une manipulation précise, parce que qui dit lentille dit risque d'infection. Donc, ça s'adresse toujours là dans le cadre des enfants, à des enfants plutôt âgés, qui sont bien motivés, qui sont débrouillards, derrière lesquels les parents sont aussi présents pour s'assurer de l'hygiène de pose. Par exemple, des gamins sportifs qui pourraient effectivement
être gênés par
le port des lunettes le jour. Mais ça suppose un accompagnement, ça a un coût, c'est pas non plus simple.
Ces dispositifs, j'imagine que la question qui suit, elle est relativement simple. C'est une fois qu'on arrête...
C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est d'ailleurs exactement la même chose avec la troisième stratégie dont on n'a pas encore parlé. Les gouttes, donc ça, il s'agit de collyre. Il n'y en a pas encore sur le marché. Ce ne sont que des préparations hospitalières qui se font à la demande de l'ophtalmo, mais ça existe en France. Donc, ça contient de l'atropine. L'atropine, c'est un principe actif qui dérive d'une plante, la belladone, ce qui était utilisé par les femmes à la Renaissance pour se donner un petit regard pétillant. En fait, c'est ce qu'utilise l'ophtalmo pour dilater la pupille quand il fait des examens. Il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui sur la dose exacte de la concentration de ce collyre. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on tâtonne un peu.
Donc, ce n'est pas le collyre le problème, c'est la dose.
C'est la dose et avec ce même phénomène de rebond dont tu parlais tout à l'heure.
Trop tard pour freiner ma myopie, à 35 ans passé. Elle est bien installée. J'ai de la chance là-dedans, c'est que j'aime bien mes lunettes, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les myopes. Une fois que j'ai passé, je pense, la vingtaine, on m'a plusieurs fois proposé de me faire opérer. En quoi consiste la chirurgie réfractive, c'est le terme, et quelle est son efficacité, puisque j'ai cru comprendre que ça ne marchait pas avec tout le monde.
Exactement, ça ne marche pas avec tout le monde, il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas avant 25 ans surtout. Il faut surtout s'adresser à un chirurgien expérimenté. Et le principe, en fait, c'est toujours mécanique. Il s'agit toujours d'aller sculpter la cornée, plus ou moins en profondeur, plus ou moins au milieu, en périphérie. La cornée est une lentille devant l'œil. Et c'est elle qu'on sculpte par des outils comme le laser. Le LASIK, c'est arrivé il y a à peu près 30 ans. Depuis, c'est largement perfectionné. Il y a plein de plateformes différentes d'usage pour les chirurgiens. La dernière en date s'appelle la trans-PKR. Elle n'a aucun contact avec l'œil. Aucun outil chirurgical ne rentre en contact avec l'œil. C'est du pur laser. Parce qu'il y a des techniques qui découpent sur les côtés, au milieu, qui font des petits volets. Là, je ne rentre pas dans la technique chirurgicale. Personne ne va se lancer pour une intervention
surtout à l'audio, c'est compliqué,
dans sa cuisine. Mais ce sont des techniques qui marchent bien si l'indication est bien posée et surtout si elle est entre de bonnes mains.
Alors, on va faire un petit retour en arrière. On va s'adresser aux parents. Quels conseils tu leur donnes ? Tout à l'heure, tu disais notamment d'éviter les écrans et tu parlais de pause, c'est ça, En quoi ça consiste ?
Alors, cette pause, c'est la règle du 20-20. C'est une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes pour que le regard se porte au loin en fixant un objet durant 20 secondes. Il y a le dépistage dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi, mais ça c'est moins facile à obtenir, la guerre contre les écrans, enfin la guerre... la limitation, et aussi de s'assurer que l'enfant ne lit pas couché sur son livre. En tout cas, ça, c'est un signe de myopie déjà avéré s'il n'a pas été dépisté.
Le dépistage, tu disais, à partir de 3 ans, c'est ça ?
Oui, on peut tout à fait le faire à partir de 3 ans. C'est le tableau classique des lettres, au fond, qu'on lit, et des chiffres.
On continue avec les conseils que tu s'adresses cette fois aux parents et à tout le monde, puisque tu déconseilles formellement de se frotter les yeux.
Alors, c'est pas moi, mais c'est oui. La Fondation Rothschild, par le biais du docteur Damien Gatinel, qui, il y a quelques temps, a donc lancé cette alerte sur le site de la Fondation, parce qu'effectivement, oui, ça fait du bien, ça détend. Certains y vont avec les poings, les phalanges, les doigts. Là, vraiment, c'est le geste quotidien, c'est pas presque la routine matinale. Eh bien, il ne faut pas le faire, je suis désolée, mais ça peut provoquer ce qu'on appelle un kératocone, une affection qui est à l'origine de la myopie. Mmh. Donc, vraiment, c'est un geste à déconseiller.
C'est tout le contraire des corrections mécaniques dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on applique une force sur l'œil qui fait qu'on peut développer...
Et c'est cette régularité et la persistance de l'action des mains sur l'œil qui est néfaste.
Donc en gros, à la limite, mettez du collier ou...
Exactement, soignez la cause, parce que s'il y a une raison, si l'œil brûle ou gêne, il y a peut-être une poussière, il y a peut-être trop d'écran, il y a une fatigue, il y a une allergie, c'est bien plus intéressant de traiter la cause.
Eh bien, merci Sylvie. Loin des yeux, près des oreilles, voilà notre devise. Bon, pour des raisons évidentes, cette fois, on a mis de côté notre penchant pour lui, puisqu'on voulait jouer les ophtalmos. Alors, vous nous excuserez, mais on va aggraver encore un peu votre myopie en vous demandant de vous pencher sur un écran d'ordinateur, ou peut-être même sur celui de votre smartphone, mais c'est pour une bonne cause, puisqu'il s'agit d'y glisser un commentaire et de belles étoiles sur le profil de 6ème Science, Spotify, Deezer, vous choisissez l'application de votre choix. À dans 2 semaines pour envoyer les 5 sens dans tous les sens.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.